Vanessa Springora, le consentement aux éditions Grasset. Nous plongeons dans les années 80 où une jeune adolescente se fait happée, on peut dire, par le charisme d'un homme brillant. On connaît l'histoire de ce livre et votre histoire. Et ce que je voulais dire tout simplement, c'est que c'est aussi un livre qui est un témoin d'une époque où aujourd'hui on dénonce des choses qui se sont passées et où on éclaire justement, alors que c'était une forme d'impunité qui fonctionnait à cette époque-là et on fermait les yeux, comme un peu avant d'ailleurs les années précédentes. Est-ce que aujourd'hui on peut refaire le passé?
Alors, il faut être optimiste et imaginer qu'effectivement, tout ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui, ce mouvement de libération de la parole, tel qu'on l'a nommé aujourd'hui, peut avoir des conséquences, non pas sur le passé, mais sur le futur, évidemment. Par exemple, mon livre, je n'osais même pas l'espérer, mais a fini par, pas à lui seul, puisqu'il y a aussi le livre probablement de Camille Kouchner, La famille agrandée, qui a eu cet effet très fort, cet impact très fort sur la société, a contribué, ces deux livres notamment, ont contribué à modifier la loi sur la protection des mineurs, qui permet de ne plus invoquer le consentement comme un outil qui atténuerait la gravité des faits qui sont commis, des agissements commis par des criminels. Ça, c'est un effet concret, direct, d'un livre sur la société. Et encore une fois, comme je vous le disais, je ne pensais pas que ce serait possible. Et c'est là. C'est voilà, une vraie modification juridique qui va probablement permettre à énormément de mineurs aujourd'hui de se sentir protégés par la loi, ce qui n'était pas le cas auparavant. Est-ce qu'on peut refaire le passé? Non, évidemment, on peut interroger le passé parce que le présent tire ses racines et son origine de cette période-là. Et on est bien obligé de s'apercevoir, si on veut déconstruire les mentalités actuelles, il faut bien comprendre d'où on vient. Et sans jugement, d'ailleurs, c'est dans cet esprit que j'écris mon livre, c'est-à-dire sans esprit revanchard, sans ressentiment. Essayer de comprendre, d'interroger pourquoi cette complaisance de la société dans les années 70, 80 et jusque dans les années 90, et on pourrait dire même jusqu'en 2013, au moment où Gabriel Matzneff reçoit le prix Renaudot, pourquoi durant aussi longtemps on a aussi peu pris en compte la souffrance des victimes, pourquoi est-ce qu'elle n'était pas entendue. On est dans un moment qui est une forme de révolution des mœurs, qui, comme toute révolution, aura ses excès, mais qui aura bien évidemment des conséquences positives, bénéfiques sur le futur et qui, j'en suis persuadée, va contribuer à protéger énormément de gens et à faire que aussi les prédateurs sexuels ne se sentent plus autorisés à avoir les mêmes agissements. Et ça, c'est vraiment un progrès.
On sent qu'il y a encore débat aujourd'hui sur l'âge du consentement sexuel.
Alors, vous savez, l'âge du consentement, c'est compliqué parce qu'il est, effectivement variable selon les pays, selon les cultures. Il y a des pays où le mariage est autorisé très jeune, à mon avis, beaucoup trop jeune. Et en plus, le plus souvent, il s'agit de jeunes femmes. Hein. C'est des jeunes femmes qu'on marie très jeunes avec des hommes plus âgés dans certains pays. Il y a débat, mais la France a tranché finalement autour de l'âge de 15 ans, parce que 15 ans, c'est aussi l'âge scientifiquement, médicalement, auquel un enfant, adolescent, n'est plus soigné par un pédiatre, mais va voir un médecin généraliste pour adulte. Donc on considère aussi que son cycle de croissance et son cycle hormonal aussi est arrivé un peu à maturité, qu'on peut considérer, même si ce n'est pas une majorité civile, que c'est une forme de majorité sexuelle. Et je trouve que c'est un âge assez équilibré, parce que honnêtement, je ne vois pas ce qu'un adulte a à faire dans le lit d'un adolescent de 15 ans, de 14 ans, de 13 ans, de 12 ans. Voilà. Au-delà, oui, effectivement, on peut octroyer un consentement éclairé chez un mineur, au-delà de 15 ans. Ça me semble un âge, pour l'instant, équilibré.
Vous parliez de culture tout à l'heure, effectivement, mais les cultures évoluent au sein de tous les pays, avec le brassage de population. Comment on peut arriver à trouver une forme de... Est-ce que le mot compromis est le bon mot? Je ne suis pas sûr, mais quelque chose qui soit acceptable.
C'est pas à nous d'en juger. Chaque pays doit faire évoluer ses propres mentalités, sa société. C'est aux jeunes femmes qui ont été victimes de mariages forcés ou de mariages trop précoces de travailler dans leur société par leur témoignage. Ça peut être sous forme artistique, ça peut être des avocates, des magistrates qui vont qui vont lutter, et elles le font hein, déjà, pour essayer de faire évoluer les mentalités. On sait très bien que ça fait absolument des ravages. Hier, j'ai fait une interview avec une écrivaine coréenne, parce que mon livre venait d'être traduit en Corée, et qui, elle, avait travaillé sur ce qu'on appelait les... c'était des prostituées, on appelait ça des femmes de réconfort en Corée qui pendant la Seconde Guerre mondiale en fait étaient de force contraintes de procurer du réconfort si on peut dire aux soldats, et des femmes qui ont porté cette honte pendant toute leur vie et qui n'en ont pas parlé jusqu'à une date très récente, et c'est un phénomène voilà, dont on parle 70 ans plus tard. Donc vous voyez, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps de faire évoluer les mentalités, mais chaque culture a ses zones d'ombre, chaque culture a aussi, vous savez, le droit des mineurs en France, il a beaucoup évolué, il y a eu les ordonnances de 45, il a fallu finalement que beaucoup de jeunes gens mineurs participent à la résistance pour qu'on change le droit et qu'on protège davantage les enfants en France après la guerre, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a aussi certains partis politiques qui ont essayé de revenir sur ces ordonnances et de moins protéger les enfants. Les enfants doivent être protégés évidemment des violences physiques, des violences sexuelles, du travail forcé, donc du mariage forcé, enfin de tout un tas de violences. Et il y a une pression dans la société comme ça, avec des mouvements inverses qui font qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a par exemple un taux de prostitution enfantine et des mineurs très important sur le territoire français, du fait qu'il y ait énormément de jeunes enfants migrants, réfugiés, qui sont mineurs, qui sont sans protection, qui sont seuls et qui n'ont pas d'autres moyens pour survivre que de se prostituer. Il y a aussi énormément de jeunes filles et de jeunes garçons dans les cités, dans les milieux issus d'immigration, qui sont très défavorisés, qui financent leurs études en se prostituant. Le problème, c'est aussi, c'est pas seulement l'offre, c'est la demande. C'est pourquoi est-ce qu'il y a encore une clientèle, si on peut appeler ça de cette manière, pour la prostitution des mineurs. C'est-à-dire que ces enfants qui se prostituent ou qui sont prostitués de force le sont aussi parce qu'il y a une demande.
Alors il y a les personnes aussi qui ont les moyens, si je puis dire, et qui font du tourisme sexuel dans différents pays où c'est à la vue et au-dessus de tout le monde.
Oui, avec la complicité, là, pour le coup, des États, puisque ça représente des ressources... comme les ressources touristiques en général, qui sont très importantes pour certains pays. Donc c'est le cas malheureusement des Philippines. J'en ai parlé dans mon livre, puisque Gabriel Matzneff était un adepte du tourisme sexuel à Manille, comme un certain nombre de ses amis, et c'est proprement scandaleux. Et je pense que là, ce qu'il faut travailler, c'est vraiment l'éducation des enfants très jeunes, non seulement, évidemment, sur leur propre corps et leur droit et leur devoir de dire non, mais aussi travailler l'éducation des hommes, en général, de la pulsion sexuelle qui conduit, qui est maladive, hein, qui se soigne en partie. Hein, il faut, beaucoup de pédophiles se font aider et peuvent ne pas passer à l'acte. Et ça, c'est très important qu'ils le sachent aussi, qu'il y a des moyens de se faire aider. Il est beaucoup plus important de surmonter sa honte de cette pathologie dont on est victime aussi, parfois parce qu'on a été soi-même abusé, et de ne pas reproduire cette violence sur d'autres enfants en se faisant soigner. Et d'ailleurs, c'est pour ça que pour moi, enfin, le livre que j'écris me semblait aussi important à cette échelle-là, c'est-à-dire que beaucoup de pédophiles ne comprenaient pas pourquoi Gabriel Matzneff n'était pas inquiété et continuait à être encensé par un certain nombre d'instances culturelles, alors qu'il était coupable de crimes, et crimes qui leur étaient reprochés à ces gens qui, eux, n'avaient pas de notoriété pour s'abriter derrière et échapper à la loi. Donc il est important d'uniformiser la loi, mais aussi de faire beaucoup d'éducation et de soins pour les gens qui sont atteints de cette maladie.
Alors il y a des gens qui sont effectivement mis en lumière. Vous pensez qu'ils ont une forme de peur ou qu'ils ont encore un sentiment d'impunité ?
Je pense que, comme on le dit aujourd'hui, la peur a changé de camp. Je pense qu'il y a une attention qui est portée beaucoup plus importante à ce phénomène de l'abus sexuel en général. Donc les prédateurs, quels qu'ils soient, sont aujourd'hui, je pense, un petit peu inquiets pour eux. Et c'est une très bonne nouvelle. Après, ça ne suffit pas. Ce qui est le plus important, c'est que les victimes se sentent écoutées et que le moment qu'on est en train de traverser, je l'espère, aura permis par exemple aux policiers de se former à l'écoute dans les commissariats, à l'écoute des victimes qui viennent porter plainte sur un abus, quel qu'il soit, une agression sexuelle, une atteinte sexuelle pour un enfant, un mineur. que les parents aussi entendent qu'on ne peut pas étouffer ce type de témoignage sous prétexte que ça amènerait la honte sur une famille ou ça diviserait ou disloquerait une famille. Là, je parle en l'occurrence des histoires d'inceste, parce que c'est souvent le cas. On impose le silence aux victimes au nom de la protection d'un clan, d'une famille, d'intérêts particuliers ou d'institutions, parce que ça a été le cas dans l'Église aussi, où pendant longtemps, on a refusé de dénoncer les prêtres pour ne pas s'en prendre à l'institution, pour ne pas entacher.
Dans l'éducation aussi.
Voilà. Et dans l'éducation, bien évidemment, aussi. Sauf que, pardon, mais il y a eu beaucoup moins d'impunité dans l'éducation nationale que dans l'Église.
On a déplacé beaucoup de gens, quelquefois, quand même.
On les a déplacés, mais moins que dans l'Église. Dans l'Église, citez-moi un cas de prêtre pédophile qui est allé en prison, c'est extrêmement rare. Il y a beaucoup plus d'enseignants qui sont allés en prison pour des faits d'abus sexuels sur des mineurs et des élèves, et leurs élèves en particulier. Donc, il faut que les familles soutiennent leurs enfants quand ils parlent. Il faut que les institutions aussi soient en mesure de croire leur témoignage, de l'entendre et de le croire, de partir du principe que malheureusement les chiffres, les statistiques le confirment, c'est un phénomène de société qui existe et qui a été trop longtemps étouffé.
Merci Vanessa Springora pour avoir parlé de ce livre et ce fait de société qui, j'espère, est en voie de disparition, parce qu'il y a des choses qu'on espère en voie de disparition.
On peut l'espérer, en tout cas on va croiser les doigts pour, et puis chacun a sa manière de lutter pour. Vous aussi, en tant que média, vous faites ce travail de faire connaître cette parole et ces témoignages, et c'est très important aussi.